du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'océan qui recouvre les deux tiers de la planète est une immense étendue à perte de vue. Impossible d'imaginer ce qui se passe sous la surface sans les images et les documentaires qui, pour notre plus grand bonheur, explorent les profondeurs. Si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer les poissons, les crustacés, les algues, mais ce que nous connaissons est tellement limité par rapport à l'incroyable diversité de la vie dans l'écosystème marin. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'infiniment petit, le microbiome, ces micro-organismes qui vivent dans l'océan. Vous allez voir, c'est fascinant. Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France. Notre studio est installé à l'Institut méditerranéen d'océanologie, un laboratoire de recherche où travaillent nos invités, Sophie Bonnet et Laurie Casalo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux chercheuses à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous travaillez ici. Comment est-ce que vous présenteriez cet institut, Sophie Bonnet ?
C'est un laboratoire d'océanographie qui fédère des thématiques et des chercheurs, et ingénieurs et techniciens qui travaillent sur toutes sortes de disciplines. L'océanographie est par essence une discipline assez pluridisciplinaire. Donc ce laboratoire regroupe à la fois des physiciens océanographes, des chimistes, des biologistes, des microbiologistes. Peut-être que Laurie veut rajouter quelque chose.
Et c'est un institut qui est sous différentes tutelles, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnels qui appartiennent à l'IRD, qui appartiennent au CNRS, qui appartiennent à l'Université d'Aix-Marseille, à l'Université de Toulon.
Voilà. Et alors vous travaillez sur quoi spécifiquement, Sophie Bonnet ?
Moi, je travaille sur le phytoplancton ou le plancton végétal et je me suis spécialisée dans ce que l'on appelle les déserts océaniques, des endroits où il y a relativement peu de phytoplancton dans la zone intertropicale.
Voilà, et on va voir donc que ce phytoplancton rend des services extraordinaires à l'écosystème dans lequel nous vivons, mais qu'en effet, il est inégalement réparti dans l'océan. Et vous, Laurie Casalo ?
Alors moi, je travaille, donc je suis microbiologiste aussi, et je travaille plutôt sur des bactéries modèles, c'est-à-dire des bactéries qui ont été isolées à partir de l'océan et qui ont des capacités physiologiques particulières qui peuvent être intéressantes. Alors, quelquefois pour des applications et quelquefois, et la majorité du temps, juste pour de la connaissance, pour savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de l'océan.
Il y a donc des bactéries dans l'océan, vous allez nous expliquer ça.
Il y en a beaucoup.
Et avec nous aussi, Émilie Villard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante en génomique environnementale, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, c'est ça. Alors moi, j'étudie l'ADN en fait pour comprendre dans les océans, donc qui est là et qu'est-ce qu'on fait. Mais je regarde ça au niveau de la communauté, c'est-à-dire que je vais pouvoir regarder tout ce qui est dans un litre d'eau, par exemple, que ce soit des bactéries ou ce qu'on appelle des eucaryotes, donc des plus grosses cellules qui se rapprochent de nous. Et des virus, etc. Donc je vais regarder vraiment tout au niveau de la communauté en essayant de fouiller en fait l'ADN qui est dans l'eau.
Et ça sert à quoi ? Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Donc vous le comprenez, le microbiome de l'océan, ça suscite de plus en plus d'intérêt. Les expéditions se multiplient. Sophie Bonnet, vous en organisez aussi, vous allez nous en parler tout à l'heure. Et par exemple, celle effectuée par la goélette scientifique Tara depuis décembre 2020. Objectif, parcourir 70 000 km en Atlantique Sud, le long des côtes sud-américaines et africaines, jusqu'en Antarctique, avec 21 escales programmées pour étudier ce microbiome marin. Alice Roy a rejoint l'équipe à bord au large des côtes chiliennes.
Alors là, on arrive à la station. C'est un endroit précis qui a été déterminé par les scientifiques. Et c'est là où on va commencer les mises à l'eau en fait. Voilà. Pendant la nuit, on a fait route pour arriver à ce point à une heure bien précise. Là, il est bientôt 7h. On va faire la première mise à l'eau à 7h.
On est à 480 mètres de câble.
Moi, je suis à 460.
Okay. Je m'appelle Douglas Coet, j'ai 30 ans et je suis biologiste marin. C'est un site dans l'océan qui nous intéresse particulièrement parce que sous l'eau il y a une morphologie particulière, par exemple un canyon sous-marin, ou alors on est proche d'un glacier qui se jette dans la mer et du coup ça crée une zone intéressante. Faire des stations dans différents écosystèmes à différentes zones, ça nous permet d'étudier différents microbiomes et comment chacun est adapté à cet environnement particulier. Au Chili, on a aussi étudié des zones d'upwelling, qui sont des remontées d'eau profonde. C'est un phénomène très intéressant en océanographie parce que ce phénomène-là, il enrichit les couches de surface en nutriments et en CO2 également. Voilà, une station marine, on l'a choisie en fonction de paramètres qui nous paraissent intéressants pour ce qu'on veut étudier. En l'occurrence, là, on veut étudier le microbiome, donc tous les micro-organismes qui sont présents dans l'océan et leur environnement auquel ils sont associés.
Voilà. On vient d'immerger la rosette. Voilà. Ok, bah c'est parti pour 2 minutes.
C'est remonté à 19,6.
Pourquoi on s'intéresse au plancton et à ces micro-organismes invisibles ?
C'est une bonne question parce qu'on ne le voit pas, donc ce serait facile de croire qu'il n'a aucun impact, aucun intérêt pour le vivant sur Terre ou pour les sociétés humaines. Mais par exemple, ce microbiome-là, il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc c'est lui qui commence à créer la nourriture pour les poissons, par exemple. Donc sans microbiome, il n'y a pas de poisson. Tout l'écosystème marin est basé sur l'existence du microbiome et du phytoplancton. De sa présence va découler toute une suite d'événements et de relations entre les espèces. Mais également, le microbiome fait beaucoup de chimie dans l'eau, puisque, par exemple, il fait de la photosynthèse. Et par cette action de photosynthèse, il va jouer sur la quantité de gaz carbonique dans l'eau et également d'oxygène. Le microbiome produit 50% de l'oxygène sur Terre. Donc, que tu habites à Brest ou à Strasbourg, tu respires cet oxygène qui est produit par le microbiome océanique.
Émilie Villard, ça vous rappelle des souvenirs ?
Bah oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur les données Tara pendant quelques années et puis aussi de partir en mission sur le bateau. Alors moi, c'était plutôt au cercle polaire, mais du coup, oui, ça me rappelle des beaux souvenirs scientifiques. Sur Tara, moi, je travaille vraiment sur la génomique, on appelle ça même la métagénomique parce que ça concerne les communautés. Et donc, du coup, hein, quand nos amis marins nous ramènent des échantillons de leurs expéditions, en fait. Donc, ils filtrent, en fait, des litres et des litres d'eau de mer. Et sur ces filtres, après, on les séquence, on récupère l'ADN et des fois l'ARN. Donc, l'ARN, on commence à en entendre un petit peu plus parler. L'ADN, ça va nous permettre de savoir qui est là dans la communauté. C'est un peu une sorte de code-barre. Chacun a sa séquence spécifique. Il y a des choses qu'on connaît déjà, donc on peut se dire, ah, cette séquence, elle ressemble à un plancton ou un micro-organisme qu'on connaît déjà. Et puis, il y a des nouveaux. Donc, on essaye de les identifier comme ça, de proche en proche, en fonction de leur séquence d'ADN.
Et vous êtes donc avec un microscope, parce que c'est tout petit, petit ?
Pas du tout. Moi, je suis derrière mon ordinateur. En fait, on séquence, les séquences, ça se fait au laboratoire. Peut-être Laurie fait un peu de séquençage. Mais surtout, après, en fait, c'est des énormes bases de données qui sont informatiques. On a des séquences de ATCG, ATCG, ATCG. C'est comme une sorte de livre, en fait, qui serait numérisé pour chaque organisme. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'est d'ordonner, en fait, ces séquences d'ADN qui sont informatisées, en fait.
Alors, dans ce reportage, on a entendu quelques explications sur le rôle des micro-organismes. Mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est ce microbiome ? Sophie Bonnet, j'ai lu que dans un litre d'eau de mer, il y a 1 milliard de micro-organismes.
Oui, tout à fait. C'est une moyenne sur l'océan. Alors, comme Émilie Villard le disait, ces organismes sont très divers. Hein. Ça va du virus aux bactéries, au plancton végétal qui font la photosynthèse, dont parlait Douglas, et également au plancton animal.
Alors donc à chaque fois, c'est des micro-organismes qui ont des formes assez incroyables. Hein. On peut voir sur Internet, c'est assez joli d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de couleurs, mais bon, on ne le voit pas à l'œil nu parce que c'est tout petit.
Tout à fait, il faut des microscopes et en général, le phytoplancton est absolument magnifique. Les images que l'on peut voir en microscopie, souvent à épifluorescence, excitent certains pigments que possèdent ces algues, c'est absolument magnifique. Et d'autres types de plancton ont des frustules, des sortes de petites carapaces, soit calcifiées, soit silicifiées, et qui parfois ressemblent à de la dentelle, c'est absolument fabuleux.
Alors, Laurie Casalo, il y a des bactéries, donc, parmi ces micro-organismes. Alors, quand on dit bactéries, ou comme Sophie Bonnet disait, virus, on se dit, oh, c'est dégoûtant, c'est dans l'océan.
Il y a énormément de bactéries, mais l'image qu'on a généralement de la bactérie est toujours une image d'épinal, de dangerosité.
Et surtout en ce moment. Hein,
surtout en ce moment, effectivement. Ça, oui. Surtout en ce moment, on a plutôt une assez mauvaise image de tout ce qui peut être virus ou bactéries. Et en fait, la majorité... Alors, effectivement, il existe des micro-organismes pathogènes, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans l'environnement, à moins qu'on les y ait apportés nous-mêmes au travers de pollution. Mais de manière générale, donc l'environnement est plein de micro-organismes et donc de bactéries et de virus qui sont fondamentales dans le fonctionnement de l'écosystème et qui, au contraire, sont un bénéfice énorme et qui n'ont absolument aucun degré de pathogénicité pour l'homme. Donc elles lui sont au contraire extrêmement bénéfiques. Si tous les jours notre corps fonctionne très très bien, c'est bien parce que nous avons un microbiome dans l'estomac qui nous permet, dans les intestins, qui permet à notre corps de fonctionner et d'assimiler. Mais l'environnement, c'est la même chose. C'est parce qu'il y a des micro-organismes qui sont efficaces, actifs, qui interagissent les uns avec les autres. Il y en a un qui fait quelque chose, qui produit quelque chose qui va être utilisé par un deuxième. Le deuxième va faire autre chose. Et tout ça, ça fait une espèce de chaîne qui fait que l'écosystème fonctionne et ça fait des cycles, en fait, de la matière qui vont être recyclée, qui va être produite, donc des boucles, et qui vont faire que le système fonctionne parfaitement bien.
Voilà, et c'est tous ces micro-organismes si méconnus nous rendent des services immenses dans l'écosystème dans lequel nous vivons. Nous en parlons juste après Papouze, Ulysses and the Sea.
In and out I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, but I'm bound to take my time until I found you. Send me home to you before the harvest starts again. And if the light comes shining through, will you still recall my name? Drifter, it's every day the same. Clouds pass me by, but I'm bound to take my time until I found you. I've been here and almost everywhere. I sailed the seven seas while you sat down on your chair. You've been good to me, have I been good to you? Lost in the ends of gravity, soon I'll get back to blue. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, à l'Institut méditerranéen d'océanologie, avec nos trois invités, Sophie Bonnet, Émilie Villard et Laurie Casalo, trois chercheuses qui travaillent sur le microbiome marin, ces micro-organismes invisibles dans l'océan, qui représentent plus des deux tiers de la biomasse marine et qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'écosystème dans lequel nous vivons. Émilie Villard, ces micro-organismes, ils participent à la stabilisation du climat. Expliquez-nous pourquoi, comment. Simplement.
Alors, je ne sais pas vraiment s'ils participent à la stabilisation du climat. En tout cas, en fait, comme ils ont un rôle très, très important à la fois quand ils font de la photosynthèse, donc en produisant de l'oxygène, ils captent aussi du CO2. Ça, c'est vraiment un des rôles qui est très, très important et qui est relativement bien documenté, en fait, maintenant. En captant le CO2, ben, ils limitent l'effet de serre aussi. Les estimations vont entre un tiers, voire jusqu'à la moitié du carbone qui est capté par le phytoplancton dans les océans. Et voilà, comme je disais, ils participent, donc Douglas aussi en parlait, ils sont vraiment impliqués dans les cycles de vie des minéraux dans l'océan. C'est très très important aussi, et donc leur présence et leur activité, elle est très importante pour réguler le climat et l'effet de serre, par exemple.
Et Sophie Bonnet, les micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire, sans eux, pas de poissons.
Effectivement, c'est ces organismes, à l'image des végétaux sur la Terre qui font la photosynthèse, qui sont à la base de la chaîne alimentaire terrestre. Eh bien, on a ces végétaux microscopiques dans l'océan qui sont à la base de la chaîne alimentaire marine et également qui produisent des molécules comme les oméga-3 dont on entend souvent parler. Ces oméga-3 sont uniquement produits par les microalgues et s'accumulent ensuite dans la chaîne alimentaire. Et les poissons riches en oméga-3 puisent leurs oméga-3 de la base de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire des micro-algues.
Oui, parce qu'en fait, ces micro-organismes sont mangés par les poissons. Et donc, s'il n'y avait pas ces micro-organismes, qui, on le rappelle, représentent l'essentiel de la vie dans l'océan, il n'y aurait pas de vie dans l'océan, on peut dire ça ?
On peut dire ça, d'une certaine manière, effectivement.
Et d'ailleurs, c'est inégalement réparti dans l'océan ?
Oui, tout à fait. Il y a des zones, notamment toutes les zones côtières, les zones tempérées et polaires qui sont relativement riches en nutriments, qui permettent à ces organismes du plancton de se développer abondamment et de faire ce qu'on appelle des efflorescences, notamment au printemps, lorsque les conditions de lumière et de température sont réunies. Et il y a au contraire des zones très pauvres en plancton, c'est essentiellement la zone intertropicale, chaude, puisque l'océan est stratifié, c'est-à-dire qu'il est chaud en surface, froid en profondeur, ce qui empêche les nutriments, qui sont au fond des océans, de passer en surface, là où il y a la lumière, et là où se fait donc la photosynthèse, parce qu'il y a une barrière physique entre le chaud et le froid. De ce fait, cet océan tropical est considéré comme un océan plutôt pauvre. Cela dit, il y a quand même de la vie dans cet océan, plus que l'on croyait un certain temps. Et la capacité de ces déserts océaniques à séquestrer du carbone, comme le disait Émilie, à séquestrer du CO2, s'avère, plus on avance dans nos connaissances et plus on se rend compte que ces zones ne sont pas à ignorer, qu'elles pourraient avoir un rôle plus important que ce que l'on pensait. Et comme elles représentent plus de la moitié de l'océan global en surface, il faut s'y pencher.
Alors, quand vous dites désert océanique, ça veut dire qu'il y a très peu de micro-organismes, comme vous l'avez expliqué. C'est quoi ? C'est plus de la moitié de l'océan ?
Oui, c'est environ la moitié de l'océan global qui sont appelées zones, on les appelle oligotrophes, oligo-peu, trophes nourris, peu nourris parce que peu de nutriments.
Et donc, vous dites que malgré tout, la photosynthèse se fait quand même. Alors, grâce à quoi ? Oh là, c'est peut-être compliqué comme question.
Il y a des organismes du plancton qui sont spécialisés pour vivre dans ces déserts. C'est-à-dire qu'au lieu de puiser les nutriments dans l'eau, ils les puisent dans l'air, qui lui-même contient de l'azote. Vous savez, l'azote, le N2, il y en a 80% dans l'air, 78% en fait. C'est cet azote qui donne l'ivresse des profondeurs aux plongeurs lorsqu'ils ne décompriment pas. Bien, cet azote gazeux, il est dissous dans l'eau de surface et certains organismes qui vivent dans ces déserts sont spécialisés pour l'utiliser. Et de ce fait, ils s'affranchissent de cette carence en nutriments et ils permettent, ils fournissent, ils agissent comme des fertilisants, des engrais naturels, et ils permettent à une chaîne alimentaire secondaire de se mettre en place là où initialement la vie n'était pas possible.
C'est assez extraordinaire parce qu'en fait c'est une adaptation de ces organismes face à un milieu hostile.
Oui, tout à fait. C'est une adaptation à la vie dans les déserts. On voit aussi des organismes au niveau des déserts terrestres qui se sont habitués au manque d'eau, à des températures extrêmes. Eh bien, eux se sont spécialisés dans la vie carencée en nutriments. Ils ont trouvé des stratégies qui sont en fait ancestrales, parce que ce gène qui leur permet d'utiliser cet azote de l'air est très, très, très ancien et on les retrouve chez les premières formes de vie sur Terre. Mais ce sont des formes de vie qui, d'une certaine manière, représentent une certaine forme de succès puisqu'elles existent toujours.
Mais alors là, on a eu par exemple récemment la publication du premier chapitre du 6e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, qui fait un état des lieux. Et est-ce que dans ce rapport, on tient compte du fait que la moitié de l'océan n'absorbe pas de CO2 ou pourrait en absorber plus, d'après ce que vous dites, que ce que l'on pensait ?
C'est un grand sujet, je ne veux pas m'avancer trop. C'est une question en fait de qu'est-ce qu'on met en entrée des modèles que l'on utilise, les Earth System Models qui génèrent les simulations. Donc moi, je ne suis pas modélisatrice, mais je pense qu'il y a une discussion intéressante à avoir avec les chercheurs qui mettent au point les modèles biogéochimiques de représentation de l'océan. Et je pense qu'ensemble, on pourrait améliorer ce qui arrive en entrée des modèles pour mieux représenter ce qui se passe dans ces déserts. Et il y a un article très récent qui vient de sortir de Laurent Bopp et qui justement en parle de ces organismes. On les appelle les fixateurs d'azote atmosphérique. En fonction de si ce processus, ces organismes sont représentés ou non dans les modèles, eh bien, les simulations de ce que sera notre océan du futur sont très différentes. Soit la quantité de plancton va diminuer drastiquement lorsqu'on ne représente pas ce processus, ou bien en fonction de si on le représente et comment on le représente, on peut aller jusqu'à une augmentation de cette concentration future en plancton. Donc je pense que c'est assez clé et que la communauté scientifique est en train de s'intéresser à cette question.
Oui, en plus, on peut imaginer que si la moitié de l'océan était considérée comme quasiment désert, alors que vous prouvez enfin, toute la communauté scientifique avec laquelle vous travaillez, pas vous toute seule, mais que, en fait, ça absorbe du CO2, ça serait une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'océan pourrait potentiellement absorber plus de CO2 que ce que l'on pensait.
Potentiellement, je pense qu'il faut rester prudent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et il y a beaucoup de rétroactions positives, négatives. Donc après, il faut comprendre le bilan net de l'ensemble. Donc ce n'est pas sûr du tout. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut s'y pencher parce que l'océan du futur, on le sait, se stratifie. C'est-à-dire que plus il fait chaud et plus notre océan du futur va ressembler à ces zones intertropicales. Donc il est nécessaire de comprendre comment elle fonctionne aujourd'hui si on veut comprendre la capacité de nos océans de demain à séquestrer du CO2.
Voilà, tout est complexe, mais vous nous l'expliquez clairement. Merci beaucoup. Laurie Casalo, vous vouliez réagir ?
Je voulais rebondir en fait sur ce que disait Sophie, parce qu'effectivement, on ne prend pas peut-être assez en considération l'impact que pourraient avoir ces micro-organismes en termes de modélisation sur la réponse que ça peut avoir au niveau de la climatologie et au niveau de la captation du CO2. Mais en revanche, je ne suis pas du tout convaincue que ce sera une réponse qui sera hyper positive. Ça peut justement aller dans les deux sens. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne les prend pas assez en considération. Donc, on a des visions qui sont très défaitistes, mais qui, par certains côtés, pourraient être améliorées et qui, en termes d'amélioration, pourraient être améliorées différemment, effectivement, si on prenait en considération ces micro-organismes.
Voilà, ne nous réjouissons pas trop vite, mais intégrons-les dans les modèles de recherche. Alors, Laurie Casalo, certains micro-organismes produisent de la lumière. Ça, c'est quand même incroyable, notamment dans les profondeurs. Expliquez-nous ça.
Alors, en fait, il y a énormément de micro-organismes dans l'océan qui produisent de la lumière. Alors, pas forcément uniquement dans les profondeurs. D'ailleurs, si un jour vous êtes allé vous baigner dans une eau à l'obscurité de nuit et que vous avez remué cette eau autour de vous, vous avez peut-être vu la mer s'éclairer ou bien dans le sillage d'un bateau, la mer s'éclairer. Donc ça, c'est dû à des dinoflagellés qui sont des algues photosynthétiques microscopiques qui ont cette capacité à faire de la lumière. Et effectivement, dans les profondeurs, on va trouver des bactéries qui ont la capacité de faire de la bioluminescence. Donc la bioluminescence, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même expliquer à quoi ça correspond. C'est la capacité d'un organisme à émettre naturellement de la lumière. Donc on confond généralement la bioluminescence avec la phosphorescence et la fluorescence. Alors c'est complètement différent parce que phosphorescence et fluorescence, c'est quand vous éclairez quelque chose et que ça vous réémet de la lumière. Donc c'est typiquement en fluorescence les vêtements que l'on peut avoir lumineux au moment où on les éclaire.
Les vêtements de sécurité,
au moment où on les éclaire, ils émettent une lumière. Dès que la lumière s'éteint, ils arrêtent d'émettre de la lumière. La phosphorescence, c'est typiquement les petites étoiles que l'on met dans les chambres des enfants qui vont capter de la lumière dans la journée et réémettre de la lumière pendant une certaine période plus ou moins longue. Ça, c'est de la phosphorescence. Et la bioluminescence, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la bactérie, l'organisme qui est capable de faire de la bioluminescence, n'est pas éclairé, mais il va fabriquer dans son corps tout ce qui est nécessaire à la synthèse de la lumière. Donc, une enzyme, un substrat, qui vont réagir et qui, en présence d'oxygène, vont émettre une lumière dans le bleu-vert, qui est juste fascinante, qui est une très très belle lumière, et qui va être capable donc d'éclairer une zone autour de soi. Alors certains organismes, comme les dinoflagellés par exemple, qui sont donc des organismes eucaryotes, donc c'est un organisme un petit peu plus élevé, on va dire, dans la chaîne que les bactéries, même si pour moi la bactérie reste fabuleuse, et pas si bas dans la chaîne.
Non, mais ne dévalorisons pas les bactéries, c'est important.
Voilà. Mais... Donc le dinoflagellé a besoin d'une stimulation mécanique. C'est pour ça que vous n'allez voir la lumière que quand vous remuez l'eau. La bactérie, elle, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle fait de la lumière tout le temps. Tout le temps.
C'est-à-dire... Mais alors ça veut dire qu'on a une image, quand on connaît pas, quand on n'a pas votre connaissance, des profondeurs de l'océan noir.
Absolument, en fait, on se trompe. Absolument. En fait, la première idée, quand on imagine et qu'on interroge les gens dans la rue, qu'on leur dit quelle est la première image qui vous vient de l'océan profond, ils nous disent c'est noir. Et en fait, c'est tout sauf noir. Plus de 76% des organismes que l'on va retrouver dans les profondeurs sont capables d'émettre de la lumière. Alors, vous allez avoir les bactéries, effectivement, mais vous allez avoir aussi des organismes comme des calamars, comme des poissons, comme des requins. Il y a énormément d'organismes différents qui sont capables d'émettre de la lumière. Alors, certains émettent de la lumière eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont capables, dans leurs propres cellules, de le faire. Ou alors, c'est ce qu'on appelle une association symbiotique, c'est-à-dire que c'est en présence d'un autre organisme qui, lui, est capable de faire de la lumière. Typiquement, le poisson lanterne, dessin animé Nemo, tout le monde le connaît, le petite lanterne, le petit poisson qui éclaire et qui attire le papa de Nemo et Dory. Eh bien, dans cette petite lanterne, ce sont des bactéries qui sont présentes et ce sont ces bactéries qui se développent dans cet organe lumineux et qui vont être capables d'émettre de la lumière. Alors, chez ces organismes-là, à quoi ça sert ? Bon, ça, c'est, on le sait, chez les gros organismes, ça sert à attirer une proie, ça sert à leurrer un prédateur. Comme la luciole, par exemple, parce qu'on en trouve aussi en terrestre, hein, de la bioluminescence. La luciole qui va émettre des flashs qui vont permettre de retrouver un partenaire sexuel qui lui est adapté. Donc, ça va servir à la reproduction. Et chez la bactérie, en fait, ben, on ne sait pas. On ne sait pas parce que ben, la bactérie n'a pas de récepteurs qui vont lui permettre de voir cette lumière. Ça va lui demander beaucoup d'énergie de synthétiser cette lumière parce que ça lui demande de fabriquer ces éléments nécessaires à la lumière. Donc, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Et pourquoi fait-elle ça ? Ben, nous, l'hypothèse que l'on a, c'est que ça a un petit avantage pour elle parce que ça va lui permettre d'être vue. Et donc, elle va se développer à la surface de particules de matière organique. Et donc, elle va les rendre visibles. Donc, les poissons vont venir, vont capter ces organismes et la bactérie va se retrouver dans le tract digestif. Donc, elle va se retrouver dans un endroit où, justement, elle va avoir davantage à manger. Donc, quand elle va se retrouver dans des zones...
C'est un peu venez me chercher, quoi.
C'est ça. Et des zones oligotrophes, elle va être à un endroit... C'est compliqué dans la zone dont vous a parlé Sophie tout à l'heure, de trouver à manger. Bah, à l'intérieur du poisson, c'est un petit peu plus facile. Puis la température va être un tout petit peu plus chaude qu'à l'extérieur, va moins être soumise à des changements de température brutaux. Donc ça, c'est intéressant pour elle. Et nous, on pense que ça contribue, en fait, à recycler la matière organique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, dans une vision un peu globale et un peu merveilleuse du système, la bactérie continuait à faire ça pour le bien général et faisait ça et permettait comme ça à la matière organique qui est donc difficilement visible dans l'océan, parce que ben, l'océan, globalement, c'est translucide, ben, permettrait comme ça à cette matière organique d'être vue et consommée et recyclée et retraitée et disponible pour d'autres.
Voilà comment on redonne de la valeur aux bactéries. Allez, on se fait une petite pause musicale avec les Beatles, Octopus Garden dans C'est pas du vent sur RFI.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France, à l'Institut méditerranéen d'océanologie, avec nos trois invités, Sophie Bonnet, Émilie Villard et Laurie Casalo, trois chercheuses qui travaillent sur le microbiome marin, ces micro-organismes invisibles dans l'océan, qui représentent plus des deux tiers de la biomasse marine et qui jouent un rôle fondamental, vous l'avez compris, dans l'équilibre de l'écosystème dans lequel nous vivons. Mais ces micro-organismes ne sont pas répartis uniformément dans l'océan, à tel point qu'il y a des endroits où on l'a évoqué, que l'on appelle des déserts océaniques. Et pour mieux comprendre ce phénomène, Sophie Bonnet, vous avez dirigé plusieurs expéditions, dont l'expédition Tonga, qui a impliqué 110 scientifiques.
Que ce soit dans les abysses, ou à peine quelques centaines de mètres sous la surface de la mer, le long des failles volcaniques, l'écorce terrestre est en pleine effervescence. Quels peuvent être les effets de ces émanations de fluides sur la vie marine et le climat ? Pour comprendre et anticiper leur impact, une expédition scientifique dirigée par deux chercheuses du CNRS et de l'IRD embarque à bord de l'Atalante, navire océanographique français. L'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Il absorbe près d'un tiers du CO2 émis par les activités humaines, notamment grâce au phytoplancton qui réalise la photosynthèse. Parmi ces organismes primitifs, des cyanobactéries, parfois observées en grand nombre à la surface de l'océan. Ces floraisons surprennent les scientifiques. Comment expliquer cette explosion de vie en plein océan où les nutriments sont rares ? Y a-t-il un lien quelconque avec les émissions volcaniques ?
Donc il y a vraiment un problème de connaissance. Comment ces volcans très peu profonds alimentent les eaux de surface en éléments chimiques qui vont permettre ensuite de nourrir une partie de la biologie de ces zones.
Parmi ces organismes, certaines cyanobactéries sont capables, grâce au fer, de capter directement l'azote de l'atmosphère dissous dans l'eau et de le rendre assimilable par les autres organismes du plancton. Le phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire marine pourrait ainsi proliférer, soustraire du dioxyde de carbone d'origine atmosphérique et l'exporter vers les profondeurs de l'océan. C'est ce que l'on appelle la pompe biologique à carbone.
Sophie Bonnet, quel était l'objectif de cette expédition ?
L'objectif était d'essayer de comprendre pourquoi nous observons un oasis de vie dans ce désert du Pacifique Sud où a été effectuée la mission Tonga.
Il faut expliquer où cette expédition a eu lieu.
Voilà, donc cette expédition a eu lieu au départ de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, direction plein est, l'archipel de Tonga, et plus à l'est encore, en allant vers la Polynésie. Donc au niveau de l'archipel de Tonga, il y a très peu d'îles émergées, mais on a une efflorescence quasi perpétuelle de phytoplancton que l'on appelle un bloom, qui fait entre 300 000 et 500 000 km², donc qui n'est pas petit. On voit très bien ces efflorescences par satellite. Les satellites sont capables de regarder, d'observer ce qu'on appelle la couleur de l'eau, c'est-à-dire les pigments de ces microalgues. Donc les satellites nous donnent un proxy, une évaluation de la biomasse en microalgues qu'il y a à la surface de l'océan. Et on voit que de façon récurrente, depuis 30 ans, on a fait une rétrospective sur 30 ans, on a ces efflorescences gigantesques dans ce désert océanique. Et avec des collègues, je travaille depuis une dizaine d'années sur cette région, on a eu un certain nombre d'hypothèses pour tenter d'expliquer cette oasis. Bon, l'hypothèse, c'est une fertilisation en nutriments. Et notamment, on pense en fer, puisque ces organismes bienfaiteurs, comme disait Laurie tout à l'heure, pour les bactéries, je le pense aussi d'une certaine manière pour ces organismes fixateurs d'azote atmosphérique, puisqu'ils fertilisent l'océan en azote et permettent aux autres organismes de se développer. Donc ils ont, on pourrait dire, un certain, je ne sais pas si c'est leur intention intrinsèque, mais en tous les cas,
c'est pas
vu de l'extérieur...
volontaire, mais ça marche.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont des taux de croissance assez faibles et que dès qu'ils ont fourni assez d'azote dans l'océan, ils se font supplanter par des organismes plus efficaces. Donc effectivement, on pense forcément à une certaine forme d'altruisme. Mais bon, c'est une autre question, l'intelligence du plancton. On en parle aussi dans la communauté de plus en plus.
Ah oui, quand même.
Oui. Alors, l'intelligence, le mot est peut-être un peu fort, mais on commence à en parler. En tous les cas, ces organismes-là qui ont cette capacité de fertiliser l'océan en azote ont une petite contrepartie, c'est qu'ils ont des très forts besoins en fer. Le fer, c'est un oligo-élément dont on a tous besoin en quantité infinitésimale, mais s'il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Donc là, notre hypothèse de longue date est qu'il y a des fertilisations en fer. On a longtemps cru que ces fertilisations provenaient de volcans aériens au niveau de l'archipel de Tonga et de l'archipel du Vanuatu. On a invalidé cette hypothèse lors de précédentes campagnes océanographiques et lors de ces précédentes campagnes, on est tombé par hasard sur des infusions de fer en provenance du plancher océanique. Et pour nous, océanographes qui travaillons sur l'océan éclairé, c'est-à-dire à peu près dans ces zones-là, les 100 premiers mètres de l'océan, là où il y a la lumière et là où la photosynthèse peut se faire, il n'y a pas de connexion entre cette couche de surface et le plancher océanique qui, en général, est à 3000 ou 5000 mètres plus bas, avec cette barrière physique dont je parlais tout à l'heure, froid en bas, chaud en haut, donc pas d'échange. Mais là, l'histoire est un petit peu différente, parce qu'au niveau de l'archipel de Tonga, il y a un grand arc volcanique qui part de la Nouvelle-Zélande, qui fait 3000 km et qui arrive jusqu'à l'archipel de Tonga, et qui est parsemé de volcans sous-marins, qui sont très peu profonds dans la colonne d'eau, entre 200 et 500 mètres de profondeur, qui sont actifs et qui émettent des fluides dans la colonne d'eau. Et l'objectif de Tonga, c'était d'aller essayer de quantifier, de comprendre si ces fluides riches en fer et en d'autres éléments nutritifs pouvaient arriver jusque dans cette couche éclairée, ces 100 premiers mètres, et fertiliser le plancton et expliquer ce bloom incroyable que l'on trouve dans cette région.
Donc, il y a des volcans sous l'océan. Déjà, c'est quand même surprenant. On ne le sait pas forcément. Et donc, ces volcans fertilisent alors ?
Alors là, on est en phase de traitement des données. On a eu notre final post-cruise meeting Tonga. Donc, on peut commencer à donner les résultats. Ils ne sont pas encore publiés, mais oui, l'hypothèse est validée. Ces fluides, alors on a étudié deux volcans cas d'étude, et effectivement les fluides remontent jusque dans la couche éclairée, et on a fait des expériences de mélange, parce que donc on a un lien causal entre là où les fluides sortent, là où les fortes concentrations en fer sont, et là où ces organismes fixateurs d'azote atmosphérique pullulent. Mais ce n'était pas suffisant pour nous, on s'est dit que ça peut être simplement une corrélation spatiale entre ces trois paramètres, mais ce n'est pas un lien causal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait embarqué à bord de l'Atalante, notre navire océanographique, un container, salle blanche, chimie propre, qui contenait des mini-cosmes, c'est-à-dire des réacteurs de 300 litres, on en avait 9, et on est allé puiser des fluides hydrothermaux dans le cratère du volcan, sous la mer, et on en a rajouté en quantité croissante dans ces 9 réacteurs expérimentaux, et on a donc pu prouver le lien causal. Les réacteurs qui ont reçu des fluides hydrothermaux riches en fer ont connu cette pullulation de ces organismes fixateurs d'azote atmosphérique. Donc on a eu notre confirmation que c'était bien les fluides hydrothermaux qui fertilisaient ces organismes dans cette zone. Et ces volcans sous-marins ne sont pas présents que à Tonga, ils sont présents ailleurs dans l'océan mondial. Donc ils pourraient avoir des impacts sur la création de hotspots de vie et des hotspots de captation de CO2 potentiellement. Donc voilà, maintenant on dit que ça serait intéressant d'étudier dans le futur.
Oui, parce que 37 jours d'expédition, 110 scientifiques mobilisés, on sent qu'il y a un enjeu important là. En fait, l'enjeu, c'est comprendre l'impact que ça pourrait avoir sur la régulation du climat. C'est ça ?
Oui, tout à fait. L'impact sur la fertilisation de l'océan en nutriments, le contenu en phytoplancton de l'océan de surface et donc, de fait, sa capacité à séquestrer du CO2. Oui.
Voilà, donc on voit bien qu'on a quand même énormément de découvertes à faire encore. Émilie Billard, vous faites beaucoup de pédagogie, vous, pour expliquer l'importance du plancton. Et alors, par exemple, ici à Marseille, vous avez créé Street Science. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Oui, bah, Street Science, c'est un projet qu'on a monté en partenariat avec l'IRD, justement, il y a déjà quelques années. Et en fait, je me suis inspirée à l'époque, c'était la fin, mais de Pokémon Go. C'était un jeu sur smartphone dont les enfants et les parents étaient complètement fans. C'était une chasse au trésor, en fait, de petits dessins, voilà, de Pokémon. Et puis, on avait des collègues à la station biologique de Roscoff qui avaient...
En Bretagne,
c'est ça. Qui avait développé un jeu de cette famille en réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est en fait quand on a un dessin physique qui est dessiné, on peut aller ce qu'on appelle flasher, le regarder à travers soit son smartphone, soit une tablette. Et en fait, on va avoir une image numérique par-dessus ce dessin qui va apporter plus d'informations. Donc là, on voyait en l'occurrence le plancton en 3D. Et puis, il y a une petite application smartphone derrière où on a des informations scientifiques à propos de ce type de plancton-là. Donc, il y avait du plancton végétal, du plancton animal, des bactéries et aussi on a des virus dans le jeu. Et donc, du coup, en croisant un peu le jeu Pokémon Go, qui est une chasse au trésor, qui est mondial, hein, on s'est dit, bah, tiens, à Marseille, on va créer ça, un jeu de piste
où il faut chercher des planctons dans la ville de Marseille. Et quand on les trouve, on peut les scanner à travers notre smartphone et obtenir à la fois des informations scientifiques et aussi les voir. Il y a un aspect très esthétique, en fait, parce qu'on a des dessins en 3D qui sont assez chouettes. Comme disait Sophie au début de l'émission, notamment le phytoplancton, ils ont des formes absolument fabuleuses et super belles. Donc, du coup, on s'est vraiment inspiré de ça pour créer ces dessins-là. Et l'idée, en fait, c'était de rendre accessible la science tous les jours. C'est-à-dire que souvent, nous, chercheurs, on participe à des manifestations scientifiques, comme la fête de la science ou des choses comme ça. Il y a des manifestations aussi régionales à Marseille. Mais ça dure 15 jours ou 3 jours. Et là, l'idée, c'était que ce soit en permanence disponible pour les gens, juste en utilisant un smartphone, quelque chose qui est, ici en tout cas en France, très répandu. Donc voilà, on a installé ce parcours à Marseille. Mais comme c'était des dessins relativement petits, c'était assez peu visible. Donc on a décidé de taper plus gros. Et donc on a demandé à un street artiste de nous faire une grande fresque de street art dans un quartier qui est très touristique à Marseille. Et cette fresque-là, en fait, on l'a aussi implémentée en réalité augmentée. Et ce qu'on voulait illustrer, c'est le fait que le plancton, ça change tout le temps, c'est soumis au gré des courants. Et donc c'est a priori en France, c'est la seule fresque qui, dans l'animation réalité augmentée, elle change tous les jours. En fait, on va récupérer la météo en mer dans la baie de Marseille. Et en fonction de cette météo, le plancton, il va changer de sens. Ça ne va pas bouger pareil. Il n'y aura pas les mêmes types de plancton. Quand il fait froid, il y aura des planctons qui sont plus adaptés au froid, etc. Quand il fait chaud, des planctons plutôt du phytoplancton, des choses comme ça.
D'accord. Donc voilà, on peut, du coup, si on est à Marseille, explorer ce plancton grâce à son smartphone dans les rues. C'est quoi ? C'est autour du Mucem ? C'est proche du Vieux-Port ?
Ouais, c'est donc entre le Panier et la Canebière. Donc c'est près du Vieux-Port, en gros. Et puis autour du Vieux-Port et en remontant la Canebière.
Et ça marche ? Les gens le font ?
Ça marche plutôt pas mal. Alors après, on n'est pas très très fort en médiatisation. Donc il faut qu'on le fasse encore connaître. Mais par contre, quand on fait des événements de culture scientifique, vraiment les enfants sont vraiment fans. Les parents aussi, souvent des fois d'ailleurs. C'est plus les parents qui...
Et ça pourrait s'exporter partout, ça ?
Voilà, exactement. Bah, d'ailleurs, c'est des projets. Donc il y a déjà eu un parcours qui est similaire. Donc en fait, le concept maintenant, il est entre les mains de ma collègue Marie, qui a une agence en fait de médiation scientifique qui s'appelle Pandarou. Et donc qui développe en fait des parcours street science sur plein de thématiques. Donc il y en a déjà un qui a été développé à Lyon sur les symbioses, donc le fait de vivre ensemble, qui n'est pas que dans le plancton, mais qui est sur plein d'autres organismes, des plantes et des choses comme ça. Et on a encore plein de projets en cours à Paris, à Brest. Voilà. Et ça s'exporte aussi à l'international. Donc, on a des petits projets peut-être au Galapagos, par exemple.
Formidable. Alors, Laurie Casalo, vous nous avez fait rêver avec ces bactéries qui produisent de la lumière, même dans les profondeurs. Est-ce qu'il y aurait des applications pour nous, les humains ?
Mais nous pensons qu'il peut y avoir des possibilités d'application. Donc, nous collaborons avec un cabinet d'architectes marseillais, le cabinet Tangram Rougerie, et avec lesquels nous avons eu une thèse. Donc, on fait aussi de la recherche fondamentale en collaboration avec eux. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser cette lumière. Peut-être, donc, effectivement, au départ, on avait une idée un peu dans l'architecture. On a un petit peu revu nos idées à la baisse parce que, c'est compliqué, ça demande quand même une certaine gestion. Mais on peut imaginer utiliser cette lumière qui est extrêmement belle, qui est extrêmement douce, pour éclairer ponctuellement avec un luminaire. On peut imaginer éclairer ponctuellement, peut-être à l'intérieur d'une tente. Il faut quand même que l'environnement soit obscur. Parce que cette lumière, bien sûr, elle n'est pas suffisamment forte pour entrer en compétition avec la lumière naturelle ou la lumière électrique. Mais en revanche, dans un environnement noir, cette lumière est suffisamment forte avec la capacité de nos yeux en fait, de s'habituer très rapidement à la lumière. Elle est suffisamment forte pour arriver à lire quelque chose et en tout cas pour se diriger dans l'obscurité sans aucune difficulté.
Mais alors, à une époque où on est vraiment en crise énergétique, etc., est-ce qu'on peut imaginer que ça soit utilisable dans des endroits où on n'a pas du tout d'électricité, par exemple ?
Alors, je pense qu'on peut imaginer, à un moment donné, concevoir ponctuellement, concevoir un petit objet qui permettrait d'apporter de la lumière. Alors après, c'est de la lumière vivante, c'est-à-dire que c'est une lumière qui est adossée à la croissance du micro-organisme. Donc, ce n'est pas une lumière qui est instantanée, très forte. Donc, elle demande un petit peu d'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut un milieu de culture, donc il faut apporter à la bactérie. La bactérie est un être vivant, donc elle a besoin de se nourrir. Donc, il faut lui apporter quelque chose qui lui permet de se nourrir.
Et mais donc, est-ce qu'on peut nourrir sa lumière soi-même ?
Oui, oui, oui. On pourrait imaginer rajouter... Alors, on travaille aussi là-dessus. Alors, c'est un concept qui a été développé par l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle la Melissa Loop, en fait, qui consiste à faire une espèce de cheminement avec différentes étapes. Et nous, on imaginerait effectivement combiner, c'est un autre projet sur lequel je travaille, en combinant la consommation de déchets par une bactérie qui produirait alors éventuellement de l'hydrogène, donc qui est aussi une autre ressource, un biohydrogène qui serait une énergie renouvelable, naturelle, non issue des ressources habituelles, fossiles, merci, je cherchais le terme, des ressources fossiles habituelles. Donc on pourrait imaginer ça et utiliser ensuite ces micro-organismes comme substrat pour pouvoir permettre le développement de notre bactérie qui est capable de faire de la lumière, ce qui permettrait d'éclairer. Cette bactérie derrière, eh bien, comme elle est marine, elle ne risque pas de polluer un environnement, donc elle pourrait être utilisée elle-même comme ressource, comme compost, pour ensuite servir dans une culture, etc. Et donc ensuite, comme ça, on pourrait imaginer avoir toute une série d'étapes avec différents organismes qui permettraient à chaque étape de valoriser le déchet de l'étape précédente. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer utiliser ces bactéries pour consommer du déchet et faire de la lumière à côté. Donc, bon, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On est clairement dans cette réflexion, on est clairement dans les tentatives de développement d'approches comme ça, mais on n'est pas encore à éclairer une ville. Mais clairement, c'est une lumière qui est très, très belle. C'est une lumière qui fascine. C'est une lumière qu'on peut imaginer aussi. Il y a des travaux qui sont faits pour essayer de l'utiliser en termes de calmant pour des enfants autistes. Donc, on réfléchit aussi sur cette qualité de lumière qui a vraiment des facteurs, des capacités de relaxation. Voilà.
Ça fait rêver, j'ai hâte de la voir, cette lumière.
Je peux vous la montrer si vous voulez.
Juste en sortant de l'émission, je ne vais pas m'en priver. Sophie Bonnet, une expédition en prévision ?
Avec ma collègue Cécile Gueux, avec qui j'ai coordonné l'expédition Tonga, on commence à songer à Tonga 2. Parce qu'effectivement, ça a ouvert, bien sûr, des réponses à nos questionnements, mais également beaucoup de questions. Donc, Tonga 2, et également, je suis en train de monter un projet qui s'appelle Hope, donc espoir ou espérance en anglais, pour précisément essayer d'aller quantifier mieux la capacité de nos déserts océaniques si vastes à séquestrer du CO2.
Merci beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. On s'est réconciliés avec les bactéries et on a rêvé, grâce à vous, à cet infiniment petit de l'océan qu'on ne regardera désormais plus pareil, en tout cas, je l'espère. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Merci à Christelle Duos d'avoir organisé ces rencontres. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à réagir à l'émission par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.
Le coq chante.